Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. On se retrouve cette semaine et en ce début de mois de septembre pour un nouvel épisode, cette fois-ci en présence d'une invitée, car si vous ne le saviez pas encore, j'ai réalisé une série d'épisodes solo au mois d'août où j'ai répondu chaque semaine à vos questions que vous m'aviez posées sur Instagram, sur le compte du podcast @inpowerpodcast, que j'ai du coup regroupé sous forme de thématiques. Cette semaine, je suis ravie de vous retrouver avec une amie rencontrée grâce aux réseaux sociaux que vous connaissez peut-être déjà, Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie. Dans cet épisode, on échange sur ce qui a poussé Léa à commencer à partager sur les réseaux, comment elle a réussi à grandir avec cette plateforme et ce qui l'a aidé à construire son propre chemin. Léa nous partage aussi l'évolution de son rapport au corps et comment arriver à prendre soin de soi, à la fois au niveau du corps et au niveau de l'esprit. Enfin, on aborde aussi le sujet de l'équilibre et le fait de ne pas avoir peur d'être fidèle à qui on est. Léa nous partage les réalités de sa nouvelle vie de maman et sa vision d'une éducation plus positive. J'ai beaucoup aimé l'échange que nous avons eu avec Léa, notamment sa bienveillance et sa sagesse, et j'espère qu'il vous plaira tout autant. Si c'est le cas, c'est en laissant quelques mots sur Apple Podcasts dans la partie avis que vous pouvez nous le faire savoir, je les lis tous et ça me touche toujours beaucoup. Je remercie cette semaine Optimistique31 qui a laissé le commentaire suivant. Je passe toujours un super moment en t'écoutant et à chaque fois que l'épisode se termine, je suis impatiente de découvrir la suite. Continue comme ça, tu ne fais pas que communiquer, tu transmets ta bonne humeur, ton optimisme, ton authenticité et ta sérénité dans chacun de tes podcasts, et c'est tout simplement un pur bonheur. Alors je voulais simplement te témoigner ma gratitude pour ça, ne t'arrête jamais de partager, ça te réussit à merveille. Ce genre de commentaires me donne vraiment qu'une envie, c'est de continuer, alors merci beaucoup d'avoir pris le temps de me laisser ce message. Et je vous invite maintenant à rejoindre ma conversation avec Léa. C'est good. Bonjour Léa.
Bonjour.
Bienvenue sur In Power. Je suis super contente de te recevoir ici.
Merci, moi aussi.
Ça fait quelques temps que je te suis parce que toi, ça fait quand même pas mal de temps que tu es sur les réseaux. Une pionnière, comme on dit. Je crois que c'est en 2010 que tu as commencé.
Ouais.
Moi, je sais un peu comment tu as commencé et tout, mais pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être ne te connaissent pas encore, déjà, est-ce que tu peux te présenter comme tu le souhaites et après nous dire, en fait, juste pourquoi tu as commencé, quel âge tu avais à l'époque, parce que on a presque le même âge, donc tu étais assez jeune, je pense,
ouais.
et voilà, nous en dire juste un peu plus sur qui tu es.
Alors, écoute, moi, j'ai commencé, j'avais 14, 15 ans, pas tout à fait 15 ans, et en fait, à l'époque, ça n'existait pas. Il existait très, très peu de ce qu'on appelait les youtubeuses, parce qu'à l'époque, moi, j'ai commencé sur YouTube, Instagram, ça n'existait pas. Enfin, voilà, c'était vraiment les débuts, et j'ai commencé parce que j'avais envie de partager sur certains sujets, et en même temps, le blogging, qui, pour le coup, existait déjà, je me sentais pas de me lancer à l'écrit en fait. J'étais beaucoup plus à l'aise à l'oral et média vidéo, j'adorais ça. Ma maman en fait, pendant des années, m'a filmée en long, en large, en travers. Elle avait toujours une caméra au bras, toutes les réunions de famille, tout le temps. Il y a des kilomètres de films. Et du coup, je sais pas si ça m'a habituée à ce média là, mais ça a été beaucoup plus naturel pour moi. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. J'ai commencé comme ça. J'avais pas les mêmes centres d'intérêt que mes copines, tu vois. J'étais vraiment pas à part, mais j'étais un peu la maman du groupe, quoi. Moi, j'étais celle qui sortait pas, je fumais pas, je buvais pas, j'étais pas du tout intéressée par les garçons de mon âge. Donc, on était dans un gros groupe de copines, chacune avait sa personnalité, mais du coup, c'était mon petit truc à moi.
Ouais.
Donc voilà, j'ai commencé à cet âge-là, et aujourd'hui, j'ai 23 ans, c'est mon métier à plein temps. J'ai plein de projets autour de tout ça, j'ai développé un e-shop de création française. J'ai toujours mes réseaux qui fonctionnent et qui n'abordent plus les mêmes sujets que quand j'avais 14 ans, mais qui sont toujours bien actifs. Et puis plein d'autres projets à côté. Mais oui, il s'est passé beaucoup de choses pendant toutes ces années. Je pense qu'à l'époque où j'ai commencé, jamais j'aurais cru que ça deviendrait.
Ce que c'est devenu. Comment est-ce que tu te définis quand on te demande ce que tu fais? Est-ce que tu arrives à trouver un terme?
Maintenant un peu plus, et je crois que c'est de plus en plus connu quand même. Au début, je travaillais dans la communication.
Ouais.
C'était le truc, je suis dans la communication. Tu vois, c'était vraiment le truc global que j'avais pas envie d'expliquer. Après, maintenant, j'aime bien dire que je suis créatrice de contenu, mais aussi que je suis chef d'entreprise, parce que c'est vraiment ce que je suis. Je suis chef de plusieurs entreprises, j'ai des personnes dans mon équipe, j'ai plusieurs salariés, j'ai des projets, parce que j'ai aussi ouvert récemment mon agence de conseil en communication, donc... Je touche vraiment à tout, donc je ne veux plus me limiter à simplement dire je suis youtubeuse, parce que YouTube, c'est qu'une infime partie de ce que je fais.
Ouais.
Mais voilà, si j'ai envie de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je commence par dire que je suis créatrice de contenu sur le web.
Ouais.
C'est assez large pour englober toute mon activité.
Ouais. Et est-ce que tu t'es pas lassée un moment, justement, des réseaux sociaux? Parce que, bon, tu t'es diversifiée, donc je pense que ça peut venir de là, mais t'es quand même toujours très présente sur les réseaux. Quand, à un moment, t'aurais pu te dire « c'est plus pour moi » ou « j'ai fait le tour »,
ouais.
Comment t'as appréhendé un peu ça?
En fait, je crois que, pour l'instant, j'ai toujours trouvé... j'ai toujours eu envie de raconter quelque chose, j'ai toujours eu envie de partager. Il y a eu un moment... une petite baisse, on va dire, avant que je tombe enceinte, parce que j'avais un très grand désir de maternité, que j'en parlais pas du tout sur les réseaux, et du coup je me sentais pas du tout légitime d'aborder ces sujets qui étaient déjà très présents dans ma vie, puisque j'ai très vite été passionnée par tous ces sujets-là. Et du coup il y a eu une période où oui, j'étais entre deux, où en fait je sentais que mon contenu ne me correspondait pas tout à fait, et le fait de devenir maman, ça m'a permis aussi de me sentir légitime, entre guillemets, d'aborder tout ça. Et ça a commencé vraiment à devenir mes réseaux, dans le sens où je me sentais entière dans ce que je proposais, et le contenu que je proposais me correspondait à 100%. Et j'étais tellement bien dans ma peau à ce moment-là, tellement bien dans mon corps, qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus vrai. Et oui, on va dire que le virage entre les deux a été un petit peu compliqué. Mais sinon, j'ai toujours trouvé que c'était... enrichissant pour moi de partager sur les réseaux cet échange, etc. Et je pense que vraiment, je me suis toujours dit en tout cas que le jour où ça serait plus le cas, ce serait
tu te forceras pas, quoi. Ouais. Et tu dis que du coup, t'étais arrivé à un stade où t'étais vraiment très bien dans ta peau. Est-ce que ça a toujours été le cas, ou est-ce que ça a été un chemin, et qu'est-ce qui t'a aidé à y arriver?
J'ai pas toujours été bien dans ma peau, mais... j'ai toujours... En fait, je me suis rendu compte plus tard que je n'étais pas bien dans ma peau. C'est assez marrant. J'ai réalisé ça il y a quelques temps. J'ai fait d'ailleurs une vidéo où je disais... le titre, c'était « J'ai toujours été grosse ». Et en fait, c'était vraiment cette idée de dire... quand je regardais des photos de moi plus jeune, aujourd'hui, avec mon œil d'aujourd'hui, je me disais « Mais en fait, t'étais très bien dans ta peau et t'étais absolument pas en surpoids. Enfin, je veux dire, au niveau santé, tout allait bien. Mais pourtant, à l'époque... tu te disais absolument pas ça quand tu te regardais dans le miroir.
Ouais.
Mais je me souviens pas avoir été dans un mal-être. J'étais très grande, en fait. J'ai très vite été très grande, très formée. En 6e, je faisais 1m75. J'ai été réglée en CM1. Enfin, j'ai vraiment...
Ah ouais.
J'étais très vite formée. Du coup, je me souviens que mon proviseur de l'époque, qui était nouveau, venait me serrer la main dans la cour en me disant « Mais pourquoi vous n'êtes pas dans la salle des profs ?» Et je lui dis « Mais je suis en 4e, en fait. » Donc, le truc...
Tu t'es trompée.
Voilà, c'est... Non,
et je suis ton élève.
Il était un peu mal, mais moi aussi. Mais voilà, j'ai toujours eu ce truc-là, en fait, assez ambivalent, où en plus, mes parents m'ont toujours considéré comme... pas comme un adulte, mais ils m'ont toujours intégré à leur conversation. Il n'y avait jamais de sujet tabou à table. J'ai vraiment été considérée, surtout par ma mère, comme son égale, entre guillemets. Du coup, j'ai été mature très vite par rapport à mon groupe de copines. Et j'avais le corps qui allait avec. Donc j'étais très grande, mais je mettais des talons. Parce qu'en fait, il y avait une phrase que mon grand-père m'avait dit, qui restait, qui disait « Quand tu as des différences, mets-les encore plus en avant pour que, en fait, personne te fasse chier dessus, quoi, hein,
ouais,
clairement.
Ouais. »
Et comme j'étais grande, je voulais pas qu'on m'attaque sur ça, donc je mettais des talons pour dire j'assume d'être grande, en fait.
Mais c'est génial, et je trouve que c'est une super bonne approche, parce que c'est un autre sujet, mais j'ai reçu il y a quelques jours deux femmes lesbiennes qui en fait expliquaient que dans leur entourage, parfois c'était compliqué, parce que c'est les gens qui vont créer un malaise quand il y en a pas. Et en fait, elles ont réalisé que en fait, c'est juste toi, la façon dont tu vas l'aborder, qui va déterminer l'augmentement de l'autre. Et je trouve, en fait, c'est pareil avec toute différence entre guillemets, c'est que si toi, tu agis comme si c'était totalement normal, et donc que tu dis oui, c'est ma copine, voilà, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, ou que toi, tu mets des talons, l'autre, en fait, ouais, va déteindre là-dessus et va considérer ça normal, vu que toi-même, tu l'assumes, il n'y a aucun problème. Alors que si, au contraire, tu essaies de te faire plus petite, si tu réponds à moitié sur ta différence, et en fait, la personne va tiquer et va encore plus se focaliser dessus. Mmh. Alors qu'en fait, je pense que c'est important pour les personnes qui nous écoutent de se rendre compte si eux-mêmes ont un complexe ou quelque chose qui est difficile à vivre dans leur vie. Si vous agissez comme si c'était totalement normal, même si parfois, au début, il faut un peu fake it until you make it, en fait, au final, comme votre entourage va calquer un peu votre attitude dessus, vous-même, vous allez finir par l'adopter, et je trouve que ça aide beaucoup, quoi.
Ça fait un effet miroir, en fait, et c'est ça pour beaucoup de choses. Comme tu dis, je suis complètement d'accord, et c'est un truc qui m'a vachement aidée dans la vie, de justement miser à fond sur soit mes points forts, soit justement assumer les différences, et finalement, ça aide les autres, mais ça t'aide aussi. Parce que quand tu sors un peu de ta zone de confort et que tu te rends compte que c'est pas si grave et que ça t'aide aussi à avancer, tu vois. Donc très vite, ouais, il y a eu ça. Et puis bon, par rapport à mon corps, c'est vrai que depuis que j'ai été enceinte, en fait, ce que je disais, bon, sur les réseaux, je partage pas mal. Voilà, j'ai lancé le hashtag Mon Corps Chéri et c'était vraiment... Ben, j'avais l'impression de faire la paix avec mon corps après avoir été maman, alors que je n'ai jamais eu un corps aussi marqué et aussi éloigné des standards de, voilà, de ce que peut être la beauté selon la société actuelle. J'ai su très marquée, j'ai eu des vergetures, tu vois. Et c'est vrai que comme j'avais cette envie d'être maman et que je me sens tellement bien dans mon rôle de maman, le moral, on va dire, enfin le bien-être
mental
a pris le dessus. Ouais. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, ce corps, en fait, il a porté la vie, il l'a nourri. Enfin, et moi, ouais, j'ai une relation plus apaisée, mais j'en prends plus soin. Tu vois, à contrario, même si aujourd'hui je me sens bien dans mon corps, c'est maintenant que j'ai envie de bouger, c'est maintenant que je me suis mis au yoga, c'est maintenant que j'ai envie d'aller faire du sport, j'ai envie de manger bien, et en fait c'est pas incompatible, au contraire.
Ouais, carrément. En fait c'est de la bienveillance.
Ouais.
Et je suis totalement d'accord avec toi, j'essaie d'insister dessus parce que parfois j'ai l'impression que des gens qui ne comprennent pas le mouvement body positive vont différencier le fait de prendre soin de son corps et de l'accepter.
Ouais,
tu vois, comme si soit t'es en surpoids et you own it et t'assumes, mais par contre tu fais du sport et tu manges bien, en fait c'est quand au final t'as envie d'être bien foutu et donc t'es un peu hypocrite. Alors que pour moi, au contraire, c'est juste, si t'aimes ton corps, tu l'assumes, mais ça n'empêche pas le fait que tu souhaites en prendre soin. Et moi, j'ai toujours fait du sport pour vous sentir bien, pas juste pour être bien dans le miroir. Enfin, ça peut passer par là, mais je pense que ça passe aussi par un bien-être mental supérieur. Et la bienveillance dans le miroir, elle va aussi par la bienveillance pour le nourrir, pour le bouger. Et enfin, pour moi, c'est hyper cohérent, mais parfois, les gens ont du mal avec ça. D'où aussi le fait que certains disent, t'es pas légitime à prendre la parole sur le body positivisme parce que t'es pas en surpoids. Enfin, je trouve qu'on arrive à des aberrations de
en fait,
pour
moi,
personne. Ouais, c'est ça.
C'est encore une fois quand tu rentres pas dans les cases. Alors que moi, j'ai mis longtemps, tu vois, à avoir cette réflexion de dire il faut aussi prendre soin de son corps, il faut aussi bien manger. Et ça a été vraiment le dernier. Ça a été le dernier truc à checker dans ma liste, entre guillemets. Et je m'en suis rendu compte très récemment parce qu'en fait. Tu te rends compte aussi de la façon dont tu nourris ton corps, ça nourrit aussi ton esprit, et surtout ça lui donne une certaine énergie.
Ouais.
En fait, cette énergie-là, elle est nécessaire pour tout le reste.
Ouais.
Ça reste, je veux dire, la façon dont tu alimentes ton corps, dont tu te donnes l'énergie de faire les choses. Et c'est hyper important, c'est pas du tout incompatible. Mais je pense qu'on est une période assez ambivalente entre le côté justement, tu vois, hyper body positive, où je trouve malheureusement parfois c'est un peu récupéré au niveau marketing.
Ou
genre, moi je sais quand j'avais posté mes articles body positive sur mon corps chéri, etc., le lendemain j'avais 3 mails de crème anti-vergeture, c'est super ce que vous avez fait, mais nous on a un super produit.
Moi ça me révolte.
En fait, enfin, l'idée c'est pas ça.
Non, mais les gens qui me contactent et qui me propose ce genre de trucs ou des programmes minceurs, ouais, je suis là, mais avez-vous regardé mon profil? Juste, il y a une non-considération de ton message. Et ouais, moi j'appelle ça du body washing en fait.
C'est
comme dans tout mouvement, des gens essayent de le récupérer à leur avantage. Et écoute, moi je suis pour que tout le monde, enfin, qu'on en parle le plus possible, mais pas que ce soit détourné à des fins qui en fait sonnent faux très rapidement, quoi.
Oui, complètement.
Je pensais pas aborder le sujet maintenant, mais en fait j'ai envie de rebondir là sur ce qu'on parle de nourrir son corps, son bien-être et tout, parce que je me dis, j'imagine que pendant la grossesse, ça a dû être quand même un sujet. Enfin, personnellement, moi, j'ai cette espèce de fantasme de la grossesse où je vais essayer de faire tout bien pour que mon bébé il soit le meilleur énergie possible. Et je me demande comment aborder ça sans en tourner un peu en une obsession. Parce que est-ce que ça peut être trop difficile de dire à chaque fois, en fait, maintenant on est deux et pas culpabiliser quand tu prends un verre d'alcool. Non, ça on évite, mais quand tu manges, tu vois, une douceur, ou quand, je sais pas, tu fais pas de sport de la semaine. Enfin, j'aurais un peu peur d'être dans cette recherche d'optimisation, tu vois.
Bah, surtout qu'il y a une pression, à partir du moment où t'es enceinte, tu as un peu l'impression que ton corps ne t'appartient plus dans le sens où la société se permet. À la fois des commentaires et des conseils en tout genre, aussi bien l'entourage que les proches, t'as des gens dans la rue qui te touchent le ventre, enfin ça devient ça devient assez fou, comme si en fait tu n'étais plus qu'une enveloppe charnelle, alors que non, pas du tout.
Ouais, tu restes
mais
toi,
voilà,
tout.
C'est en fait je ne viens pas te toucher les seins, tu ne viens pas me toucher mon ventre, mais c'est bon, après parfois c'est un peu générationnel, moi ça m'était arrivé avec une une petite mamie dans un tramway, genre les deux mains posées, et non, en fait.
Ouais.
En plus, c'était en protection. Enfin, moi, je me souviens avoir été vachement en protection par rapport à ça. Et oui, bah, pour revenir à ta question, en fait, moi, j'ai abordé ça différemment. J'ai voulu vraiment prendre soin d'abord de ma tête parce que je savais que c'était un tournant pour moi et un tournant pour notre couple aussi, parce qu'en fait, on exclut vachement le partenaire de... je trouve, de la grossesse, même dans le milieu médical, tu vois, on s'adresse qu'à toi, ou pour la préparation à la grossesse, voilà, on a l'impression que tu es seule avec ton bébé, mais c'est vraiment tout un foyer qui change de statut.
Ouais.
Et on a commencé à se poser des questions ensemble, et c'est mon mari qui cuisine beaucoup, Samuel, il cuisine beaucoup à la maison, c'est lui qui fait les repas et tout, donc il avait à cœur aussi de prendre soin de nous, c'était sa façon aussi de participer, mais je me suis pas du tout interdit... Ben d'ailleurs, tu sais, je mangeais plus de viande pendant des années, j'ai plus mangé de viande. Pendant ma grossesse, j'ai eu une envie de viande.
Ouais, j'entends pas mal ça.
Jamais, en fait. Et vraiment, j'ai écouté mon corps. Je me suis dit, bah écoute, tu as envie de viande, j'ai mangé de la viande.
Ouais.
Et au début, j'ai eu des nausées pendant 3 mois, je ne bouffais que de la pastèque. C'était horrible. Il n'y avait que ça qui rentrait dans mon corps. Donc, en fait, tu t'écoutes, tu apprends à t'écouter, tu apprends surtout à sortir de ce que tu avais prévu et à faire avec ton intuition. Et vraiment, ça, c'est un truc qui est hyper important et qui, pour moi, doit commencer dès le départ quand tu as une volonté de, voilà, d'avoir un enfant. C'est vraiment apprendre à s'écouter dans tous les sens du terme. Je reçois des dizaines de messages par jour de maman qui me disent, voilà, je suis dans telle situation, mon pédiatre m'a dit ça, ma sage-femme m'a dit ça, ma belle-mère m'a dit ça, mais moi, je sens que j'ai envie de faire autrement, mais je sais pas. Et qui sont perdus parce qu'en fait, on déconnecte les mamans et les parents en général, hein, et les personnes en général dans notre société, de leur ressenti, de leurs besoins, de leurs émotions. Et ça s'applique à plein de sujets, tu vois, même par rapport à l'alimentation, par rapport à tout ça, mais encore plus dans la maternité, quand tu es dans ce rôle-là, qui est un rôle quand même, bah, qu'on le veuille ou non, animal. Je veux dire, t'as quand même ton côté mammifère qui ressent énormément.
Ouais.
Enfin, moi, je l'ai ressenti
ton
comme
instinct,
ça.
Protecteur,
ton instinct, c'est ça. Et je pense vraiment, voilà, qu'il faut s'écouter. Moi, je sais que j'ai été beaucoup massée, tu vois, je sais pas, pendant ma grossesse, j'ai eu envie beaucoup d'être massée, de prendre soin de mon corps de cette façon-là, d'y aller doucement, de m'écouter. Et finalement, ben, je pensais être, comme tu dis, tu vois, beaucoup plus contrôle fric au niveau de la nourriture et tout. Et finalement, ben, en fait, quand t'as pas envie de manger pendant 3 mois, ben, t'as mangé pas pendant 3 mois. Et puis voilà, tu réajustes en fonction. Et quand t'as envie de manger de la viande, ben, tu manges de la viande. Et puis après, ça revient. Et... ouais, tu composes, en fait.
Ouais, c'est trop cool. Mais t'arrivais à être autant en écoute avec toi-même avant, ou la grossesse a été... un accélérateur ou un déclencheur même?
Je crois que j'ai eu la chance, en fait, d'être écoutée quand même petite, beaucoup. Et tout ce qui est éducation, ça m'a passionnée parce qu'en fait, je me rends compte que la société dans laquelle on est, les adultes qui la composent, dépendent beaucoup de la façon dont ils ont été éduqués. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressée aussi aux différences dans les pays, tu vois, en Suède, dans des pays comme ça, où le modèle éducatif est très différent, où justement on accorde beaucoup plus d'importance à l'émotion, à ce que ressent l'autre et à ce que ressent même le petit individu qui a le droit aussi d'être en colère, d'être triste, de ne pas être d'accord. Mmh. Et en fait, ça construit des adultes qui aussi... peuvent dire non, peuvent se rendre compte de ce qu'ils sont en train de vivre, des émotions qui les traversent. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui était très à l'écoute, où on a très vite eu confiance en nous. Mes parents m'ont fait très vite confiance. Je veux dire, j'ai à 14 ans, 15 ans, quand YouTube commençait à démarrer, que j'étais encore au lycée, que j'avais 2 de moyenne générale parce que j'étais jamais en cours, que j'avais mes rendez-vous à Paris qui me laissaient partir en pleine semaine de bac blanc à Paris pour faire mes rendez-vous. Je veux dire, c'est une chance que j'ai eue, cette chance d'avoir confiance en moi et confiance en ce que je mettais en place, et surtout confiance en l'éducation qu'ils m'avaient donnée. Et finalement, c'est vrai que tout ça, ça a construit aussi l'adulte que je suis aujourd'hui. Et tu vois, quand je compare aujourd'hui, par exemple, à mon mari qui n'a pas forcément eu la même éducation, ou peut-être des parents qui étaient plus dans un système traditionnel, fonctionnaire, etc., je ressens aujourd'hui la difficulté à savoir ce qu'il veut, par exemple, ou à assumer ce qu'il ressent. Et je pense que ça joue. Donc oui, bien sûr, être maman, ça m'a aidé à prendre, tu vois, confiance en moi, à prendre vraiment les rênes de ce que je voulais pour mon enfant, pour mon foyer, pour ma famille. Mais je sais que cette graine a été plantée depuis très longtemps et ouais. c'est quelque chose qui est très important aussi pour moi en tant que transmission, en tant que maman, tu vois, pour ouais. mon fils plus tard.
C'est hyper intéressant parce que je trouve, ça rejoint un peu ce qu'on disait au début de l'épisode, mais tu vois, je pense que de l'extérieur, des gens pourraient se dire c'est dingue, Léa, à 23 ans, bah, tout ce qu'elle a accompli, elle a déjà un foyer, elle est déjà une maman. Et tu vois, une question qui m'était venue, c'est est-ce que... t'as pas l'impression parfois d'avoir grandi trop vite ou d'avoir manqué des choses dans ton enfance, ton adolescence. Mais à t'écouter, en fait, j'ai même plus besoin de la poser parce qu'on sent juste que non. Et qu'en fait, il y a, je pense, beaucoup d'idées reçues ou de schémas quoi, là, qu'on va essayer de poser sur les gens. Telle personne grandit trop vite, telle personne est restée enfant trop longtemps. Mais en fait, non, on est tous différents.
Ouais.
Et je pense que ben, tu t'es juste écouté au final. Et je pense pas que t'auras dans 10 ans l'impression que t'es ouais. passé à côté de quelque chose. Au contraire, t'avais juste... J'ai envie de faire tout ce que tu as fait et, ouais. et tu t'es écouté quoi.
En fait, c'est une question qui revient beaucoup. Et même, tu vois, dans l'entourage. Alors, mes amis, pas trop, parce que j'ai un cercle d'amis qui est là depuis tellement longtemps qu'elles savent que j'ai toujours eu ça en moi, en fait. Mmh. Et ça, enfin, je n'ai jamais ressenti ce truc-là de grandir trop vite. Parce que, comme tu dis, je me suis écoutée. Et surtout, même à l'adolescence, j'ai eu un entourage suffisamment bienveillant pour me laisser être qui j'avais envie d'être. Et ça, c'est hyper important dans les amitiés. De choisir des personnes, enfin de choisir, de, en tout cas de s'entourer de personnes et d'écarter de sa vie les personnes qui vous mettent dans un chemin dans lequel vous n'avez pas choisi, dans lequel vous n'êtes pas. Et moi, j'étais celle qui buvait pas, j'étais celle qui fumait pas, mais jamais mes copines m'ont dit « Ah là là, mais t'es super chiante, t'es hyper ennuyeuse, parce que tu bois pas, parce que t'es... » Bah non, en fait, d'accepter ça parce que c'était pas mon truc et ça voulait pas dire qu'on partageait rien ensemble. Simplement, bah, c'était ma façon à moi de vivre mon adolescente. Elles ont eu d'autres, voilà, d'autres moyens de la vivre. Et finalement, quand on regarde aujourd'hui, c'est vrai que toutes mes copines, moi, elles sont encore en coloc, elles ouais. ont encore une vie étudiante. Mais ça n'empêche rien, en fait, et je me sens pas écartée parce que socialement, en fait, notre relation, elle est juste différente,
ouais.
mais elle n'est pas moins bien. Elle
ouais.
est simplement, elle remplit autre chose que quand mes copines se voient entre elles en festival d'électro jusqu'à 4h du mat, et voilà, et elles s'éclatent, et tant mieux. Mais juste, je sais que ce n'est pas mon truc. Et tant qu'en fait, c'est OK pour toi, et
ouais.
c'est OK pour les autres, le
ouais.
reste, tu t'en fous, quoi.
Carrément. Et est-ce que tu arrives à gérer tous ces aspects de ta vie? Parce que, ben, en plus, il faut un peu que se remplir, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a peut-être un truc avec lequel tu as un peu plus de mal? Ou si tu n'as pas de mal, comment tu as réussi à trouver cet équilibre? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de casquettes, quoi.
Ouais, c'est vrai que là, en plus, ça ne fait que augmenter
ben ouais.
et, pour mon plus grand bonheur. Parce que voilà, ça me plaît beaucoup, tous ces projets-là. Il y a eu une période où j'ai eu un vrai passage à vide de « Ok, je n'arrive pas tout à gérer, je me manque de temps. » Ça a été très rapide. Parce que plus j'avance dans la vie, plus j'arrive à... Tu vois, je visualise ça comme je suis face à l'océan, il y a une énorme vague que je vois arriver au loin, je sais qu'elle va...
T'exploser,
m'exploser, mais j'ai le choix de faire demi-tour et de courir, en fait.
Ouais.
Et vraiment, j'ai vu ça comme ça il y a quelques temps, il y a quelques mois, et j'ai réagi très vite, et il y a un livre qui m'a énormément aidée, qui est très connu, hein, c'est le livre de Miracle Morning.
Ouais.
Qui est en fait un livre qui parle d'une, comment on peut appeler ça, de développement personnel, mais sous l'angle de se dire, on se plaint tout le temps de ne pas avoir du temps pour soi, créons-nous du temps pour nous.
Ouais.
Et c'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et à partir du moment où j'ai écouté ce livre, parce que j'avais pas le temps de le lire, du coup je l'ai écouté entre mes voyages en train, etc., bah, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur plusieurs choses qui se sont positionnées dans ma vie. Tu vois, le soir même, j'ai rencontré Fabrice Midal, qui est un auteur qui a écrit « Foutez-vous la paix », qui est un livre que j'aime beaucoup sur la méditation, mais complètement, et sur le bien-être en général, mais complètement dédramatisé et pas du tout intellectualisé comme on le fait aujourd'hui, où on est là, oh là là, la méditation, faut être une yogi confirmée, faut être vraiment, tu vois, ne plus arriver à ne plus penser.
Ouais,
voilà.
Ouais.
C'est pas du tout là-dedans, c'est juste, voilà, comme le nom du livre l'indique, foutez-vous la paix. J'ai rencontré ce monsieur, juste après, j'ai eu un cours de yoga, j'ai découvert le yoga, j'ai complètement accroché. Après, j'ai eu une autre rencontre avec un influenceur, voilà, que j'avais jamais rencontré, mais avec qui j'ai eu une discussion hyper intéressante. Et tu vois, toutes ces petites choses qui se sont mises sur mon chemin à partir du moment où j'ai découvert ce livre Miracle Morning, ça a confirmé le chemin que j'étais en train de prendre et je me suis dit, ok, là, il y a un truc qui est en train de te correspondre, qu'est-ce que tu peux mettre en place dans ta vie pour, voilà, pour sortir de ce coup de mou, de ce passage à vide. Et en fait, j'ai mis en place ma Miracle Morning à moi,
ouais.
C'est-à-dire que tous les matins, 6h30, je me lève avant mon fils. Alors avant, je me levais même avant mon mari, maintenant il l'a fait avec moi. Et j'ai une heure pour moi. Et en fait, je ne suis pas à la lettre, la Miracle Morning de l'auteur, voilà, il s'appelle Al Erol, je crois. Lui, il donne vraiment sa Miracle Morning. Je pense qu'il faut vraiment l'adapter. Mais moi qui ai une vie hyper remplie, en fait, prendre cette heure-là de 6h30 à 7h30 où je fais mon yoga, ma méditation, alors des fois je planifie ma journée, j'écoute un podcast, ça a été tellement bénéfique sur toute ma productivité. Et le message, c'est de dire que quand tu prends soin de toi, de ton environnement, de ton bien-être, ça rayonne sur tout ce que tu entreprends. Et la métaphore de « je suis dans l'avion, il y a une turbulence, je dois mettre mon masque oxygène avant de mettre celui de mon enfant ». Parce qu'en fait, si tu n'es pas toi-même oxygéné, tu ne peux pas t'occuper des autres. Et vraiment, je l'ai vu comme ça, et ça a rayonné vraiment sur toute ma productivité, mais aussi mon foyer, tu vois, la gestion de la maison, parce que ça se pose aussi quand t'es en foyer, quand t'es pas toute seule, tu vois, tu peux pas te permettre de dire, oh bah non, bah ce soir on fait pas manger, ou
bah ouais.
Les courses c'est la semaine prochaine, bah non, ouais, en fait, tu vois, quand même, même si, voilà, mon mari il est là, mais on est quand même dans un foyer, et ça a été déterminant pour moi, vraiment, de prendre ce temps-là, et pourtant, ça fait 18 mois que je fais pas une nuit complète, hein.
Ouais.
Voilà, mon fils se réveille chaque nuit, il est encore allaité, donc tu vois, il se réveille pour téter, etc. Donc non, c'est pas à la portée de... Enfin, c'est à la portée de tout le monde,
ouais.
Pas seulement ceux qui dorment 15 heures par nuit, pas du tout.
Ouais.
Et c'est ça, change ma vie, ouais.
C'est hyper déculpabilisant, je trouve, parce que souvent, quand on a l'impression qu'on a trop de choses à faire, la dernière chose à laquelle on pense, c'est prendre plus de temps pour soi. Et au contraire, on a cette tentation de d'éliminer les moments qu'on a pour soi pour faire plus. Et moi, je me souviens, c'est aussi une question que je me suis posée, parce que moi, je finis mes études, donc en plus, je dois gérer les cours, ma vie pro, ma vie perso, mon couple, enfin, tu vois. Et donc, en fait, j'avais un moment commencé par cutter mes séances, parce que j'adore le sport, ou mon temps avec mes amis pour pouvoir faire plus de trucs. Et en fait, au final... ça te vide encore plus, parce que j'ai réalisé aussi que non, je ne vais plus sacrifier mes séances, même si ça me prend une heure par jour, parce que c'est un moment où je respire, et ça me permet de mieux respirer après, pour la suite de ma journée, et ça fait, en fait, ça fait du bien de se rendre compte, parce que je pense que, voilà, comme on est des personnes qui ont des projets et qui aiment avancer, on a limite besoin de cette justification, en fait, non, c'est utile, c'est pas parce que tu te fais du bien que c'est égoïste, et au contraire, ça te servira encore plus tard, quoi, alors que, je le dis souvent sur le podcast, mais c'est difficile dans une société, on est dans la glorification du plus... toujours plus, parce que en fait, mine de rien, je pense que même nous, on est un peu quand même, ça nous a touchés, ou en tout cas, inconsciemment, on l'a aussi intégré, et c'est pour ça qu'on aime autant faire des projets. Et j'essaye vraiment, autant que faire se peut, de prendre du recul et de me dire, bon, à la fin de ta vie, tu verras peut-être que t'as accompli, mais tu te souviendras plus des moments, des émotions. Mais sur le coup, c'est difficile de s'en rendre compte, quoi.
Complètement, mais parce que je pense qu'on n'est pas éduqué à prendre soin de nous, tu vois. On est dans un truc où... ou vraiment, tu rentres dans le moule, tu vois, le truc des études, etc., moi, je sais que quand j'étais au lycée et que je parlais de, tu vois, de mes projets, de ce que je faisais, etc., mais en fait, moi, on m'a carrément mis des bâtons dans les roues. J'ai eu des réactions d'adultes face à moi qui étaient, tu vois, quand je regarde ça un petit peu avec du recul, une jeune ado de 16 ans, oui, alors certes, tu vois, qui faisait des vidéos sur YouTube, etc., mais qui était en train de monter un projet de vie, je veux dire, qui faisait parler sa créativité, qui mettait en jeu pas des matières communes de maths, philo, physique, tout ce que tu veux, mais qui partait sur un autre chemin. Et en fait, très peu de personnes m'ont encouragée là-dedans, et notamment les gens qui partageaient beaucoup de mes heures, c'est-à-dire mes profs. Et un jour... j'ai eu une très belle surprise de mon professeur d'histoire géo de l'époque qui il est toujours un professeur géo, mais à côté il écrit des BD, il dessine des BD. Et un jour je tombe sur une de ses planches, c'était une planche sur moi, c'était une planche sur le fait qu'il se souvient lui en tant qu'enfant qu'on lui a dit mais en fait non, genre écrire des dessins, faire des dessins et faire ce que t'aimes, ça va pas te faire vivre. Et en fait, il se souvient m'avoir dit ou avoir pu penser ça à mon égard.
Ouais.
Et qu'aujourd'hui, quelques années plus tard, ben, c'était ma passion et ma vie. Et qu'en fait, lui, ben, même aujourd'hui en tant qu'adulte, il continue à cultiver sa passion.
Ouais, ouais.
Et en fait, il avait fait ce parallèle-là. Il ne me l'a jamais envoyé au com. Je suis tombée dessus. Et il y avait marqué « Merci Léa » en tout petit. Et ça a été hyper touchant.
Ah ouais.
Parce que je me suis rendu compte, en fait, que ce dont on parle là, depuis tout à l'heure, tu vois, dans le podcast, c'est vraiment... Ça touche tout le monde, en fait.
Ouais.
Et c'est un temps qu'il faut prendre et qui est précieux pour, justement, ben, les années futures, quand on se retourne sur notre vie.
Ouais.
Et moi, j'ai un exemple dans ma famille. Mon grand-père, qui est une personne qui a énormément de place dans ma vie, qui est parti de rien, qui a tout fait, qui a une entreprise avec 150 salariés, qui a fait des milliers de projets, à la fois humanitaires, professionnels, personnels, qui a toujours été hyper investi dans tout ce qu'il entreprenait, alors qu'il partait de rien. Et aujourd'hui, quand on en discute et dans les échanges qu'on peut avoir, je sais que s'il pouvait avoir un seul regret, entre guillemets, c'est justement de ne pas avoir cultivé sa propre, tu vois, sa propre personne et son propre petit jardin intérieur, en fait.
Ouais.
Il a fait une jungle autour de lui magnifique, mais lui, en tant que personne, en tant qu'humain, bah, il ne s'est pas forcément ni soigné de ses blessures, ni cultivé, tu vois, ni nourri, en fait.
Ouais, ouais.
Et c'est vrai que on est beaucoup dans le matériel, tu vois, dans ce que tu as, mais très peu dans ce que tu es. Et à tous les niveaux et à tous les stades de la vie, je pense que c'est très important.
Totalement. Je pense qu'on a quand même la chance de vivre dans une société aujourd'hui qui commence à en parler.
Ouais.
Et comme, en fait, je pense, bah, l'Internet, avec un grand I, a complètement levé les barrières. Et du coup, on peut être en échange avec des communautés, des cultures qui parlent de tout ça, et ça nous touche, et ça se répand. Mais j'imagine qu'à l'époque de nos grands-parents, en fait, c'était genre... On s'en fout de ce que tu ressens, limite. Ça,
c'est l'après-guerre aussi. Hein.
Ouais, c'est clair.
Il y a eu ça aussi qui a complètement mis l'humain
au second plan, quoi. Ouais,
donc, pour se reconstruire en tant que personne, oui, j'imagine qu'en fait, ton toi passe très très loin. Quoi.
Mais tu vois, d'un côté, je me demande s'ils n'étaient pas plus heureux d'un côté. Parce qu'en fait, du coup, ils avaient tellement pas d'autres exemples de schémas de vie que je pense qu'ils étaient peut-être dans un déni, mais qui, limite, était bénéfique. Enfin, dans le sens où la difficulté aujourd'hui, c'est que comme on parle de tout ça, on parle de bien-être, on parle de bonheur beaucoup, d'atteindre limite le bonheur, alors que je suis pas sûre que ce soit vraiment un état permanent, et ben si on ne l'est pas, on se remet beaucoup plus en question parce qu'on est beaucoup plus là à se dire que c'est nous qui avons un problème, alors que j'imagine qu'à l'époque de nos grands-parents, enfin voilà, ils avaient des schémas beaucoup plus simples, en fait. Et si déjà ils avaient un travail et ils étaient mariés, ils étaient à mon avis très heureux parce qu'ils cherchaient pas midi à 14h à se demander est-ce que je fais vraiment ce que j'aime dans la vie. Et donc, en fait, comme tu te poses pas la question, je pense que tu le vis beaucoup moins bien, enfin tu le vis beaucoup mieux. Alors qu'aujourd'hui, après, je trouve ça très bien aussi que les gens se posent la question, mais quand ils sont dans un schéma professionnel dans lequel ils sont pas complètement épanouis, et ben ils vont le vivre très difficilement parce que d'un côté il y a les injonctions de la société de ben non, t'es dans un schéma classique et t'as choisi la sécurité et c'est bien, mais d'un autre, toi-même tu peux plus faire semblant et tu sais qu'au fond ça te plaît pas de ouf, quoi.
Après, je pense que c'est toute la conception du bonheur, enfin tu vois, on part dans un truc philosophique, mais je pense que ça dépend aussi beaucoup, comme tu dis, de ce que la société te renvoie à ce moment-là. Et tu vois, c'est la même chose pour moi ou pour le rapport au corps. Je veux dire, il y a quand même pas mal d'années, les personnes qui étaient minces, bronzées, en fait, c'était pas du tout le schéma de la beauté, parce que c'était les personnes qui étaient dans les champs, qui travaillaient, et qu'en fait, ça correspondait à un milieu social, tu vois. Voilà, donc je pense que... Mais après, par rapport, tu vois, à nos grands-parents, je pense aussi que, comme tu dis, ils se posaient même pas la question, donc... Et ceux qui se posaient la question... Je sais pas du coup comment. Enfin, est-ce que tu te sens pas un peu fou, quoi?
Ah ouais.
Tu vois?
Je pense que ça doit être très difficile. Hein.
T'as aucun moyen de le partager, de le.
Ouais.
Aujourd'hui, on a cette chance-là et on est vraiment dans le schéma où on est à la fois en train de chercher le bonheur, etc., et en même temps en train de se dire, mais j'ai l'impression que je l'atteindrai jamais parce qu'on a tellement d'exemples autour de nous de vie lisse, tu vois, les réseaux, même Instagram, etc. Moi, je le dis souvent, faites attention aux gens que vous suivez.
Ouais, je le dis aussi très souvent. Ouais.
Parce qu'en fait, c'est les personnes qui constituent aussi votre monde, quoi. Même si tu les connais pas personnellement, tu les vois tous les jours, tu sais ce qu'ils font tous les jours. Enfin, ouais, tu vois, c'est assez...
Ouais, et en fait, du coup, t'es vachement plus dans la comparaison.
Complètement.
Parce que tu vois, comme tu dis, ils font au quotidien, et t'es vachement plus toi dans la remise en question. Mais encore hier, je tournais un épisode solo, là, que je vais sortir pour le mois d'août, donc les personnes qui nous écoutent l'auront peut-être déjà écouté, mais je dis limite jamais vous savez pas par où commencer, parce que parfois tu suis des gens parce que juste je sais pas tu les apprécies pour x ou y raison et tu sais plus qui suivre, parce que honnêtement moi des personnes que j'ai suivies ont un impact hyper positif sur qui je suis, autant donc dans le digital que dans la vraie vie, et je dis suivez des personnes que vous aimez vraiment qui sont très positives et regardez qui elles suivent.
Ouais.
Donc par exemple ils peuvent le faire avec toi, regardez qui Léa suit, et j'imagine que tu suis des personnes qui t'aident à te sentir bien plutôt que te faire quitter Instagram en te disant mais en fait je suis nulle ou je suis moche ou ma vie c'est
la
merde.
Même par rapport à la maternité et tout, par rapport même à l'allaitement, quand j'étais pas du tout maman et que juste je commençais à m'intéresser à tous ces sujets, j'ai suivi des mamans qui étaient complètement décomplexées face à leur allaitement, qui postaient des photos avec leur bébé etc. en train d'allaiter, et en fait je me suis rendu compte en les suivant, en étant moi-même maman, en faisant moi-même le chemin de choisir d'allaiter, etc., de la vision que j'avais de mon corps et de leur corps et de ce que la société en fait renvoie par rapport à la poitrine des femmes, cette sursexualisation qu'il y a, alors que de base quand même, en fait une poitrine c'est fait pour nourrir un enfant. Et au début, moi qui étais interloquée, mais je trouvais ça très beau, etc., mais j'avais quand même ce petit truc en me disant tiens, j'aurais peut-être pas osé. Aujourd'hui j'adore voir passer ces photos et tu vois je sais que j'en prends aussi et voilà, que j'en ai déjà posté et que c'est beaucoup plus naturel pour moi, et je me dis voilà, ça a été un impact positif pour moi parce que ça a déconstruit un schéma que je pouvais avoir de dire ah ouais quand même tu vois, quelle est la place de l'allaitement dans la société, est-ce que c'est pas... Et puis en fait, non, aujourd'hui, mon avis, il a complètement évolué. Mais tout ça pour dire que l'impact de ce que tu vois tous les jours...
Ouais, j'ai totalement changé ta vision des choses.
Mais oui, ta vision des choses.
Je suis totalement d'accord. Si tu suis des personnes qui sont assumées, décomplexées, toi-même, tu vas même plus être dans le jugement et tu vas trouver ça totalement normal. Alors que si tu suis des personnes qui, au contraire, sont... très manichéenne ou ne montre qu'une réalité, toi-même ça va te rendre un peu plus fermé d'esprit, alors que j'ose espérer qu'on aspire à plutôt être ouvert d'esprit. Et tu parles d'éducation, il y a quand même donc un autre sujet que je voulais aborder, parce que moi je suis pas maman, donc même si j'ai aussi conscience de l'éducation que j'ai envie de donner à mes enfants, j'ai lu pas mal de fois, toi à la fois sur ce que tu partageais ou ce que les gens partageaient de tes interviews, etc., que donc t'avais une vision différent de l'éducation, ou en tout cas une certaine vision, et que t'as pu être critiquée pour ça, ce qui moi me paraît absolument incroyable, parce que je sais pas, j'ai toujours détesté les personnes qui se permettent de dire comment tu dois éduquer tes enfants, je comprends pas, mais comment est-ce que toi tu l'as vécu, et comment même t'as construit cette vision de l'éducation, parce que pareil, un travers dans lequel on peut tomber, et peut-être les futurs mamans qui nous écoutent sont, c'est d'avoir peur de mal faire. Et je pense qu'il y a beaucoup... En fait, il faut dire, il y a, comme dans tout, il n'y a pas une seule façon de faire. Et je pense que c'est de toute façon une courbe d'apprentissage sans fin. Comment est-ce que toi, tu l'as abordé ?
C'est marrant parce qu'on en parlait hier avec mon mari, et on se disait, on a tellement encore de chemin à faire. Et quand je reçois des messages de personnes qui me demandent qu'est-ce que je dois faire, tu vois, comme si j'étais genre la référence, pas du tout en fait. Moi, je me suis intéressée à ce sujet parce que depuis toute petite, l'injustice, ça me meurtrit. Enfin, je suis meurtrie quand je vois des situations d'injustice, de violence, et surtout envers des enfants, en fait. Vraiment, il y a ce truc-là que je trouve très injuste. Et à un moment donné, je me suis intéressée à toutes les pédagogies alternatives, donc les pédagogies Montessori. Voilà, il en existe plein. Montessori, on en parle beaucoup. Il y a eu un effet un peu de mode. Montessori, c'est une femme qui s'appelait Maria Montessori, qui était italienne et qui, il y a des années déjà, a commencé à réfléchir à accompagner les enfants qui avaient peut-être certaines difficultés d'une autre façon, en se mettant en fait à leur hauteur. Et ça m'a tout de suite parlé parce que, j'ai toujours eu ce truc de me dire, mais il y a parfois beaucoup d'irrespect en fait envers les enfants. Les enfants sont souvent vus comme des petits tyrans, comme des petits monstres, comme des petits diables, et on le dit souvent, oh là là,
ouais,
mais
en rigolant, c'est en plus
en le rigolant, et on fait des choses avec les enfants qu'on n'accepterait jamais de la part d'un adulte, jamais. un parent qui frappe son enfant au supermarché parce qu'il se trouve par terre, c'est quotidien, c'est courant. Un homme qui frappe sa femme au supermarché, j'ose espérer que les gens ne trouvent pas ça normal. Et en fait, il y a ce truc de dire, parce que c'est un enfant, parce que c'est de l'éducation, on a le droit d'accéder à la violence. Et en fait, pour moi, c'est comme quelqu'un qui dit, c'est mon patron, en fait, donc il a le droit de mettre une droite, c'est du management. Non, en fait. Un enfant est un être humain qui a des droits. Et je pense que toute cette violence omniprésente dans l'éducation, parce qu'elle l'est, elle l'est sous plein de formes. Elle l'est sous la forme de retrait d'amour. Ah je vais te retirer ton doudou parce que voilà. Maman elle t'aime plus. T'es pas gentil. Plein de choses comme ça, plein de choses qui font partie de notre quotidien que j'aurais très certainement à 300% eu aussi comme comportement si j'avais pas eu cette prise de conscience et cette connaissance aussi sur les dernières découvertes scientifiques, parce qu'aujourd'hui on a une chance incroyable, c'est qu'on a les neurosciences. Et les neurosciences, elles nous disent aujourd'hui que ça a un impact négatif sur la construction cérébrale. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu hurles, à chaque fois que tu tapes, à chaque fois que tu punis dans le cerveau, ça empêche certaines constructions neuronales, ou ça peut même les dégrader, ça peut même, certaines peuvent ne pas se construire. Et ça crée en fait des adultes qui, dans une société, face à certaines situations, réagissent par la violence, parce que c'est le circuit neuronal qui aurait été créé pour eux. On parle beaucoup notamment de crise d'adolescence de plus en plus violente, mais parce qu'en fait la crise d'adolescence c'est quoi? C'est quand l'effet de pouvoir s'inverse et que l'adolescent peut répondre à son parent là où il ne pouvait pas le faire quand il était petit enfant. Et tous ces sujets-là de respect et de d'éducation non violente, en fait, moi, je le partage parce que ça résonne en moi et parce que je pense réellement que ça pourrait avoir un impact bénéfique sur notre société et sur les citoyens, tu vois, de demain. Jamais je prétends détenir la vérité, jamais... parce que, comme je te dis, nous, chaque jour, avec mon mari, on se dit qu'on a du chemin à faire, et ça nous arrive bien sûr de se dire là je suis pas d'accord avec la façon dont t'as réagi, de dire là je suis pas en capacité de gérer la situation, je vais avoir des comportements qui vont pas être ok avec ce qu'on veut, donc je passe le relais. C'est un chemin, mais ce chemin là il est hyper important pour moi d'en parler, parce que je te dis, c'est un rayon beaucoup plus large que juste l'éducation des enfants. Et le principe de consentement, de respect, mon enfant n'a pas envie de te faire un bisou ou de recevoir un bisou, en fait c'est son corps, et le consentement ça commence par là.
Ouais.
Ça commence par accepter que ton enfant est un individu et que des fois mon fils il fait 40 degrés, il a envie de mettre un pull. Il met un pull, et puis quand il sort et qu'il a chaud, il demande à enlever son pull. Et c'est la reconnexion à tes besoins, en fait, à ce que tu ressens. Non, je vais pas te forcer à manger, parce qu'en fait, c'est toi qui sais mieux si tu as faim ou non. Des fois, mon fils, il mange deux assiettes, des fois, il ne mange rien du repas. Et cette confiance-là et cette construction-là qui n'est pas facile, c'est pas facile, parce que ça te met face à ton propre lâcher-prise, à tes propres conditionnements, en fait, en tant qu'enfant et en tant qu'adulte, et que cette position de parent et de dire, quel statut tu veux avoir? Est-ce que tu veux que ton enfant il te respecte parce qu'il a peur de toi? Ou est-ce que tu veux qu'il te respecte parce qu'il t'obéit? Ou est-ce que tu veux qu'il te respecte parce qu'il coopère? Et à un moment donné, quand tu te dis, bien sûr, moi je voudrais qu'il coopère, t'es obligé de lâcher prise sur beaucoup, beaucoup de choses. Quand ton enfant il dit qu'il veut pas, en fait il veut pas. Alors bien sûr, on va me dire, ça dépend des situations, des fois on n'a pas le choix, etc. J'entends. Mais quand on fait subir un choix parce qu'on n'a pas le choix justement, il y a une façon de faire, il y a une façon d'expliquer. Et c'est toute cette démarche-là que nous on essaye de mettre au quotidien, que je partage. Parce que je pense réellement qu'il y a possibilité de faire autrement, et que moi j'en viens à sortir dans les lieux publics et avoir peur des parents, quoi. À me confronter en fait à des scènes de violence dans lesquelles maintenant j'interviens, parce que j'arrive à intervenir alors qu'avant j'étais complètement pétrifiée et tétanisée, autant que les enfants. Mais j'en vois quotidiennement, et c'est une souffrance silencieuse à mes yeux, alors qu'il devient de plus en plus parler, discuter, décrit, heureusement. Mais je pense qu'on a encore pas mal de chemin à faire, et si les réseaux sociaux peuvent permettre aussi de parler de tout ça, c'est génial. Et quand je vois les retours que j'ai par rapport à tous ces sujets, des parents qui arrivent au fur et à mesure à placer dans leur quotidien des petites avancées, des petites choses qui font que la relation avec ton enfant est plus harmonieuse, Ben c'est super en fait. Et c'est un sujet qui me tient tellement à cœur qu'il faut m'arrêter parce que sinon j'en parle 4 heures.
Mais, ah non, mais je trouve ça hyper intéressant.
Mais voilà, ça, c'est pour, voilà, pour toutes les futurs parents. Et par rapport au fait que tu me dises, oui, que j'ai beaucoup, beaucoup eu de critiques par rapport à tout ça, je comprends totalement que les gens soient très virulents par rapport à tous ces sujets-là. Parce que déjà, ça te renvoie à ta propre éducation, à ce que toi tu as reçu, ou à ce que toi tu donnes comme éducation à tes enfants. Et du coup, bah, t'es dans la réaction de dire, ah là là, mais si elle montre qu'elle fait autrement, ça veut dire que nous, on a mal fait. C'est ça, en fait.
Alors ça remet en question une personne et ils se sentent attaqués, voilà.
Alors que pas du tout. Ouais. Moi, je te partage ce qui résonne en moi. Si ça résonne en toi et que t'as envie de l'appliquer, entre guillemets, ou de, en tout cas de faire l'initiative d'y réfléchir, de mener une réflexion, c'est super. Si c'est pas le cas, mais libre à toi de passer ton chemin. Et moi, je ne suis pas des parents qui ont une éducation à l'opposé de ce que je souhaite pour mes enfants. Parce que, en fait, ça ne fait éveiller en moi que des choses qui sont négatives. Et nourrissez-vous du positif, quoi.
C'est génial. Non, mais en plus, je trouve ça très mature et honorable de ta part. Parce que souvent, en plus, quand c'est positif, moi, j'ai le type de personnalité où quand j'ai l'impression d'avoir découvert quelque chose de vraiment positif qui pourrait bénéficier aux autres, j'ai envie de convertir tout le monde, tu vois. Et toi, t'as cette maturité de prendre du recul et de dire, bah non, en fait, c'est un choix... chacun, et si telle personne veut éduquer ses enfants d'une manière totalement différente, ben je respecte, et c'est
pas
très
facile.
Fort.
Quand tu interviens, par exemple, tu vois, là, on était à la montagne, on était en parc d'Acrobranche, et il y avait une petite qui devait avoir 3 ans, qui était complètement tétanisée dans un parcours, et elle pleurait, et donc moi je m'approche, et je lui dis, ça va, tu as besoin d'aide, tu as besoin de quelque chose, moi je peux pas laisser, en fait,
un enfant sans dépense,
la mère était à côté, bon, et du coup, voyant que j'interviens auprès de sa fille, elle vient, et elle lui dit, oh, arrête ton cinéma, c'est bon, et en fait, j'arrive, je dis, mais peut-être qu'elle a vraiment peur, en fait. Et elle me regarde, en fait, elle attendait pas à ce que, peut-être, j'engage la conversation, ça n'avait rien de malveillant de ma part, c'était juste... peut-être que vous le voyez pas sous cet angle-là, mais peut-être qu'en fait votre fille là, elle a vraiment peur. Et du coup, je sais pas si ça a des avancées des choses. J'ai pas du tout la prétention de dire que ça lui a changé quelque chose dans sa vie ou dans sa façon de fonctionner, mais juste, elle a porté une autre attention à sa fille, qui s'est sentie comprise, qui a réussi à redescendre du parcours et qui avait vraiment peur, qui a fait un câlin à sa maman et voilà. Mais parfois, quand tu as ce genre de réflexion auprès d'autres, tu vois, des fois je me suis dit ouais, mais en fait. T'es pas forcément légitime à le faire, et après je me dis, si c'était un autre adulte qui était en détresse, j'interviendrais en fait, donc pourquoi ne pas le faire, je veux dire, ce que je dis souvent, c'est que ton enfant, c'est pas ton sac à main, c'est pas ta table, c'est pas ta chaise, en fait, ça ne t'appartient pas. Je veux dire, toi, en tant que parent, tu accompagnes, bien sûr, tu transmets les valeurs qui te tiennent à cœur, bien sûr, tu as ton propre mode d'éducatif, ton propre mode de pensée, mais sous prétexte que c'est ton enfant, tu n'as pas tous les droits, en fait.
Ouais.
Et ça, petit à petit, c'est reconnu. Il y a une loi qui vient de passer, là, justement, sur les violences éducatives ordinaires, qui dit, qui est lue maintenant à chaque mariage en mairie, que tu ne peux pas, que tu dois élever et éduquer ton enfant sans violence ni psychologique, ni physique. Alors qu'avant, c'était pas le cas, tu vois.
J'en ai eu des fessées, hein.
Oui, mais j'en ai eu aussi, et quand aujourd'hui j'en discute avec mes parents, ils me disent, bah ouais, mais on en a donné parce que nous aussi on avait reçu.
Ouais, ouais, c'est un schéma très répétitif, mais au moins toi t'as pris le parti de remettre en question, quoi. Ouais. De pas répéter bêtement, et ça je trouve que c'est quelque chose qu'on fait pas assez. On a tendance à reproduire ou même à agir sans se demander pourquoi on fait les choses. Et moi c'était pareil avec le jugement, par exemple. J'ai jugé beaucoup quand j'étais jeune parce que je voyais mes parents juger. Et avant mon travail de réflexion, en fait, de déconstruction, je me posais pas la question. Et aujourd'hui je me dis, mais quel est fondamentalement l'intérêt de juger? Aucun. Ça t'apporte de l'animosité, ça ne t'apporte rien de bénéfique. J'ai arrêté de juger, et du coup, en plus, par conséquent, j'ai arrêté de me juger aussi, ce qui est hyper libérateur. Mais j'aime beaucoup, en fait, ta réflexion qui en fait, est assez simple, de se dire, est-ce que j'aurais fait ça pour un adulte? Que soit frapper, que soit réagir, que soit aider. Comme tu dis, c'est pas...
Change d'angle, en fait.
Ouais, et c'est une question qu'on peut tous se poser. Et la seule question, quand même... Enfin non, en fait, j'en ai plein, mais une des premières questions que je me suis posée suite à ce que tu m'as dit, c'est... Est-ce que t'as pas peur? Ah, attends, ça c'est mon copain. J'adore, il veut du vrai.
Il est bien annoncé.
Ouais. Je disais, une des premières questions suite à ce que tu viens de raconter qui m'est venue à l'esprit, c'est est-ce que t'as pas peur que à l'école, en fait, du coup, ils soient perdus, vu que malheureusement, les profs, ils sont pas du tout dans la logique bienveillante que tu es en train de mettre en place dans ton éducation.
Alors nous, on a pris une décision avec mon mari, donc qui a arrêté ses études de médecine, c'est que pour l'instant, on est parti sur une instruction en famille, parce qu'on a très envie de voyager, et qu'on a très envie, en tout cas pendant les premières années, de mener cette instruction entre nous pour lui permettre en fait une plus grande liberté et puis surtout voilà un autre apport qui est le voyage, les différentes cultures, etc. Donc pour l'instant on a choisi de faire l'instruction en famille, donc l'école viendra plus tard, on ne sait pas encore quand, on ne sait pas encore combien de temps est-ce qu'on a envie de mettre ça en place. Mais je pense, et ça revient beaucoup dans les questions, de dire oh là là, mais si ton enfant vit genre dans un monde de bisounours, ça va quand il va être confronté à la vie réelle. Et en fait, moi j'ai une vision complètement différente des choses, c'est de dire moi, mon enfant, je lui apporte des outils et un environnement suffisamment sécure et bienveillant pour qu'il, pour qu'il se développe entre guillemets comme un adulte serein, confiant, heureux. Et même un jeune enfant et même un jeune adolescent. Et j'ose espérer que dans certaines situations plus violentes, déjà, il sera en capacité d'exprimer ce qu'il ressent à ce moment-là, d'accepter qu'il traverse des émotions, tu vois, que ça le rend en colère, que ça le rend triste, qu'il y ait ce dialogue entre nous et qu'on cherche ensemble ou qu'il trouve par lui-même les ressources pour faire face à tout ça. Mais j'ai pas envie de me dire « Oh là là, bah, la vie est tellement dure et violente que, en lui tapant dessus et en lui montrant que, en gros, c'est le plus fort qui gagne, en gros, il faut que, tu vois, que je comment ça, 3-4 ? Qu'en le mettant dans ce climat de violence, ça va lui permettre justement de réagir à ces situations-là. » Je le vois par exemple, tu vois, la dernière fois, il est tout petit, il a 1 an et demi, hein, mais quand on était au parc, la dernière fois, il y a un enfant qui lui a donné une claque, un petit qui avait 2 ans, pour aucune raison, comme ça, vraiment, tac. Et il a eu un moment de stop, parce qu'il a jamais eu ça, il lui a fait un bisou.
Oh,
et
c'est un
je sais
si
pas
beau
si
message.
C'était conscient ou pas, mais 2 secondes après, j'ai vu la mère lui donner une fessée à l'enfant qui venait de taper mon petit garçon. Et en fait, ça veut pas dire que tous les enfants qui tapent reçoivent des fessées, pas du tout, il faut le dire, jusqu'à un certain âge, le fait de taper est un comportement qui est tout à fait normal, ça veut pas dire qu'il est acceptable, ça veut dire qu'il est normal, parce qu'ils peuvent pas faire autrement, parce que la maturité cérébrale ne permet pas d'exprimer les choses autrement, et que voilà, nous aussi des fois, Gaspard il a eu des gestes qui peuvent sembler à des tapes, ou qui peuvent être violents, et dans ces cas-là on redirige en disant, ben non, avec les mains on fait des caresses, avec les mains on fait des chatouilles, voilà. Bref, petit aparté, mais pour pas non plus ranger les enfants dans des cases, genre tu tapes, t'as été tapé, mais ce schéma-là et ce à quoi j'ai assisté était tellement révélateur de notre façon de penser qu'avec mon mari on s'est regardé en se disant ok, bon ben peut-être que c'est la bonne voie, peut-être que ben un jour il se sera pas, tu vois, aussi bienveillant et peut-être que lui aussi répondra par une tape, c'est pas grave, mais l'idée, le message il est là, il est d'accompagner en disant qu'en fait la violence n'est pas acceptable et comment est-ce qu'on peut faire pour trouver des solutions pour faire autrement. Et dans tous les cas de figure, c'est ça qu'on a envie de mener et on se fait confiance en ce sens. Tu vois, il y a eu un moment où en fait mon fils il s'endormait pendant ses siestes qu'en écharpe portée. C'était mon mari qui le portait pendant des heures, etc. Et notre entourage, et la société, les gens qu'on pouvait croiser, les médecins et tout, etc. C'est-à-dire, là, mais il faut absolument qu'il dorme son lit, mais il va pas rester accroché à vous toute sa vie, etc. Et du jour au lendemain, il a pris la décision par lui-même de faire ses siestes dans son lit, et maintenant, il dort dans son lit. Alors qu'avant, ça n'avait jamais été le cas. Et en fait, j'ai dit à mon mari, je suis soulagée, en fait. Parce que même quand t'es dans tes convictions, que t'es dans ton truc en train de te dire, ouais, on est sur le bon chemin... Quand t'as autour de toi des gens qui te mettent la pression, t'es quand même en droit de douter, même si tu te le dis pas forcément, même dans ton couple, t'as quand même ce truc de dire
ça peut au fond de toi,
est-ce que vraiment ça va se passer, est-ce que... Et en fait, quand on lui a fait confiance et que finalement il y a eu cette nouvelle acquisition là, que ça s'est fait tellement simplement, je me suis dit ok, mais je suis très contente que ça se soit passé comme ça. Et peut-être que mon enfant plus tard il aura pas les mêmes problèmes que moi par exemple par rapport au sommeil. J'ai eu besoin pendant des années de dormir la porte ouverte avec une lumière, avec du mal à dormir chez les autres, avec Voilà, et finalement, bah, petit à petit, tu prends confiance comme tu peux.
Ouais, ouais. C'est des belles preuves de, ouais, que tu viens de nous témoigner. Et je me demande, vu que tu viens de, bah, de parler donc, de la décision de faire l'instruction en famille, que je trouve génial, puisqu'encore une fois, juste, vous partez pas dans un schéma très traditionnel sans remettre en question, vous, vraiment ce que vous avez envie pour votre enfant. Et vous avez parlé de voyage. Et ça me pose juste la question, en fait, par rapport à toi, à ton mari, et aussi à votre vie bah, d'entrepreneur. Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous souhaitez à ce moment-là vraiment avoir une équipe qui sera à distance et vous continuerez à travailler? Ou est-ce que vous voyez les voyages comme juste, je sais pas, une expérience? Je sais qu'il y a des familles qui décident de faire des tours du monde avec leurs enfants. Ouais. Enfin, j'entends des histoires assez incroyables. Et du coup, bon, bah, comme vous êtes quand même entrepreneur, la question se pose pour vous, quoi.
Bah, c'est vrai que je pense pas qu'on puisse arrêter, enfin, moi, que je puisse arrêter une activité. J'aime tellement ce que je fais, j'aime tellement avoir l'esprit occupé. Enfin, je pense que tu sais ce que c'est quand on ouais. est dans le truc. C'est très difficile de mettre pause. Et tu vois, même pendant les vacances et tout, moi, au bout d'une semaine, j'ai qu'une envie, c'est de retourner bosser.
C'est exactement ce que je disais à mon copain quand on est revenu du Mexique. J'étais là, oh, j'ai hâte. C'est bien de brainstormer.
Les gens, des fois, te prennent un peu pour une folle. Mais il y a ce truc-là de quand tu kiffes, en fait, bah, tous les matins, tu te lèves, t'es heureux de faire ce que tu fais. Et même ça veut dire que c'est moins dur, ça veut pas dire que tu y passes moins d'heures, au contraire, mais il y a ce truc là de voilà d'avoir envie de continuer, donc je pense pas qu'on arrêterait. Après, je pense que ça peut être intéressant aussi de partager tout ça. Et bon, alors moi, Samuel, mon mari, il était pas du tout là-dedans, hein, pas du tout dans les réseaux, il y connaît rien du tout, enfin il y connaissait rien du tout. Et là, depuis peu, il s'est dit bah tiens, pourquoi pas partager aussi sur ce sujet là et en fait, il a eu envie de partager sa décision, lui, de devenir père au foyer,
ouais.
Parce que finalement, c'était tellement à l'opposé de l'image de ce qu'on avait de lui, même dans la famille, etc. Il était quand même à l'étude de médecine, entre en quatrième année, tout ça. Et de prendre cette décision-là et d'être tellement épanouie et de le voir comme ça, ben, avec mon fils, et faire tu vois, des activités, faire des... Comment on peut dire ça? Enfin, avancer... Okay, faire des projets qui lui ressemblent et qui s'éloignent complètement de la vie dans laquelle il était destiné. Ça a été hyper inspirant à la fois pour moi, mais même pour lui, pour notre entourage. Et il a décidé donc de le partager sur les réseaux. Et je pense que ça, le voyage, etc., c'est quelque chose qu'il va avoir envie aussi, lui, de montrer comment c'est possible, en fait, d'allier les deux, d'allier ouais. l'instruction, d'allier le boulot et d'allier à la fois la vie, peut-être à l'étranger, et peut-être que ce sera par petite période. On n'est pas encore fixé sur ce qu'on veut faire, mais on sait qu'on a envie de bouger, ça c'est sûr.
Ouais. C'est trop cool, mais en fait, j'aime beaucoup le message que vous partagez, parce que non seulement, là, tu nous dis qu'il n'y a pas une seule façon de faire, mais surtout que ça n'arrive pas qu'à une seule personne. Parce que beaucoup de gens, je pense, qui nous écoutent, on a vraiment tendance en France à penser que ça arrive aux autres, mais pas à nous.
Ouais.
Ou ouais, ce serait cool de vivre de sa passion, mais non, il y a la réalité. Mais non, enfin, vous créez votre réalité, et le thème de ce podcast, c'est prendre le pouvoir de sa vie, et je pense que c'est, enfin, le message le plus important à faire passer, c'est que c'est pas réservé aux autres, et ça sera peut-être difficile. On dit pas le contraire, mais si vous voulez assez, vous y arriverez et vous montrez vraiment très bien, quoi.
Complètement. Et il y a des messages, tu vois, que je reçois de oui, mais comment appliquer? Alors moi, j'aime pas trop ce mot parce qu'on applique rien du tout, mais en gros, comment être dans une éducation comme ça, non violente, tout ça, quand on a des horaires de bureau et que je dis mais en fait, déjà rien n'est incompatible. Et puis en plus, tu as les choix aussi de t'entourer de personnes qui partagent tes valeurs. Et j'ai plein de mamans que je suis qui ont des postes à haute responsabilité, qui sont seules avec deux enfants, enfin, et qui pourtant ne font pas l'impasse sur ces choses-là, parce qu'à un moment donné, tu places aussi tes priorités dans la vie, en fait. Et quand ça devient ta priorité, tu mets tout en œuvre pour que ce soit le cas, que ça arrive et que ça se réalise. Et comme tu dis, ouais, prendre le pouvoir de sa vie, c'est ça. C'est vraiment pour moi enfin prendre le chemin pour lequel... pas tu es destiné, mais qui te ressemble, que tu es. Ça veut pas dire que ce sera facile, ça veut pas dire que tout de suite tu sais qui tu es ou ce que tu deviens, mais accepter de se l'autoriser, s'autoriser à être et à faire ce qu'on a envie, en fait, ce qu'on veut.
Ouais, c'est génial parce que t'as répondu à la dernière question du podcast avant même que je te la pose. C'est une première, donc c'est cool, mais j'en ai une dernière à te poser quand même. J'ai envie de te demander si tu devais écrire une seule chose, une seule pensée sur une feuille. Imaginons que tu dois quitter tout le monde, ta famille, tes amis, pour une autre vie, mais tu dois laisser un peu une guideline à ton enfant. Qu'est-ce que tu lui dirais?
Franchement, la seule phrase qui me vient, c'est sois libre, quoi. La liberté, c'est la valeur fondamentale que j'ai envie de transmettre à mon enfant. La liberté, pas de la liberté dans le sens je fais tout ce que je veux n'importe comment, mais la liberté d'être et la liberté de devenir, en fait. Et vraiment, tout ce qu'on met en place, nous, au quotidien, c'est l'idée de dire, nous, on t'accompagne dans ta vie, mais on n'est ni ton guide, ni celui qui va te dire qui être ou quoi faire. Et on n'a qu'une envie, c'est de te permettre, c'est d'accéder à cette liberté, en fait. Et ça, c'est, ouais, sois libre, vraiment.
Trop cool, je crois que c'est sur le titre de l'épisode. Merci beaucoup Léa, d'Ancient Power. J'ai beaucoup aimé cette discussion et merci pour tous les insights que tu nous as donnés. Et je trouve que tu as une sagesse qui est précieuse. Donc merci beaucoup. Pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, on les redirige d'abord.
On va dire sur mon blog, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut, il y a tous les réseaux, voilà. Donc je ne suis pas jolie.fr.
Ok, super, et je mettrai de toute façon tous les réseaux et la note du podcast pour que vous puissiez la retrouver sur Instagram, sur YouTube, sur ton e-shop aussi et sur ton podcast. On n'a même pas parlé de ton podcast, mais pour ceux et celles qui sont adeptes de podcast, Léa a un podcast sur la maternité qui est vraiment hyper intéressant. Donc je mettrai tout ça dans la note du podcast et j'espère à très vite.
Oui, à très vite.
Merci beaucoup de vous être joints à nous dans cette discussion avec Léa. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant l'épisode en story ou sur votre compte Instagram en nous taguant @je-ne-suis-pas-jolie et @mybetter-self pour que l'on puisse le voir et échanger avec vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà le cas pour ne pas manquer les prochains épisodes. Vous pouvez le faire directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode d'InPower.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.